Cours de philosophie de l'éducation chrétienne par le Père Philippe à Rimont le 23 janvier 1995, premier cours.
Celui qui a fait ça, qui continue. J'aimerais bien te l'avoir. Je n'ai pas envie de critiquer ce que les psychologues disent pour les différents âges. Mais nous avons un regard philosophique qui n'est pas le même, forcément. déterminant et deux conditionnants. Le conditionnement vient du point de vue biologique et du point de vue psychologique. C'est pour ça que si on fait une croissance en fonction de l'aspect purement biologique, c'est très intéressant. C'est très intéressant cet objectif. Le savant peut développer l'état embryonnaire biologique. Il peut développer après la naissance le développement aussi biologique. Le psychologue peut, en fonction de ce qu'il regarde en premier lieu, voir un développement de plus en plus complexe. Un développement où les refoulements sont plus nombreux, mais sont moins profonds. Et il y a une loi de développement des refoulements et des épanouissements que le psychologue peut saisir. Il peut saisir que, par exemple, qu'à l'âge plus facilement où l'enfant est accueillant, où l'enfant a peur et commence à refuser. Premier moment où l'enfant dit non. C'est un moment très intéressant. Et puis, le moment où il commence à pouvoir poser des actes libres de choix. Et le philosophe, lui, va regarder le développement en fonction de ce qu'est la personne humaine. Que seul le philosophe peut vraiment connaître, et le théologien, c'est évident. Il y a la personne humaine et la personne chrétienne. Et la personne humaine est le conditionnement pour le développement de la personne chrétienne. Et plus qu'un conditionnement, puisqu'il y a de fait pour les vertus morales, donc la manière dont nous devons dominer le concupiscible et l'irascible, il y a une manière prudentielle et des vertus liées à la prudence, des vertus cardinales, qui ont un caractère spécifiquement d'humain, mais qui sont modifiés par la foi, l'espérance et la charité. Oui, c'est pour ça que c'est assez délicat de bien voir les agencements entre la personne chrétienne et la personne humaine. Je dis ça parce que je crois que c'est très important de comprendre cela. Mais on verra progressivement. Ce que je voulais dire, et ça me semble important, c'est que le philosophe qui essaie de comprendre ce que c'est que l'éducation comme un art, qui implique une coopération constante entre l'enfant qui est éduqué et celui qui l'éduque. Et plus on avance dans l'éducation, plus le rôle de celui qui est éduqué est grand. Et plus l'éducateur doit s'effacer pour être beaucoup plus quelqu'un qui est là pour rattraper les chutes. Un éducateur qui continue de s'imposer. Il y a un éducateur, par exemple, d'enfants de 14 ans, puisque c'est peut-être l'âge où l'éducateur est le plus éducateur comme déterminant. Je crois. 13. l'avance des étapes par la coopération, moi. Parce que je regarde l'éducation plus comme un art. Or, dans un art, les différents moments de l'art, mais c'est très net. Regardez un sculpteur. Regardez-le au point de départ. Quand il a sa bûche, il va gros coup. Puis plus la statue se développe, plus il fait attention. Il prend du reste d'autres ciseaux. C'est plus les mêmes. Puis quand il essaie de sculpter la figure, les yeux, quand il essaie de sculpter le vêtement, il est bien plus attentif. donc je ne peux pas prendre uniquement l'âge au point de vue biologique ou psychologique. Parce que le point de vue biologique et psychologique ne donne pas les déterminations, ne montre que les dispositions, que le conditionnement. Ça, c'est un principe, parce que je ne l'ai pas assez dit. Je ne le voyais pas assez, c'est progressivement qu'on voit besoin. Progressivement qu'on essaie de comprendre ça. Et puis qu'on interroge. Et je vous demanderai à vous, puisque les dernières fois, je crois, on m'a rappelé, on a vu surtout la prudence, l'éveil de l'intelligence spéculative, l'intelligence pratique, à côté de l'art. Le premier éveil de l'intelligence est l'intelligence artistique. L'enfant est artiste avant que d'être ami. Il est artiste. Et, en premier lieu, s'il est chrétien, il prie. Mais, spontanément, dès que la prière est terminée, il ne faut pas qu'elle soit trop longue, il recommence à jouer. À la poupée pour la petite fille, au mécano pour le garçon. Et donc c'est artistique. Et la prière est d'une certaine manière, métaphysiquement elle est antérieure, mais psychologiquement pas. Mais elle doit rester première. Et c'est pour ça que c'est difficile. Quel est l'âge de la prière? Il n'y a pas d'âge pour la prière. Il n'y a pas d'âge pour la foi. Il n'y a pas d'âge pour l'espérance et la charité. Tandis qu'il y a un âge pour l'éveil de l'intelligence. Et parce qu'il n'y a pas d'âge pour la prière, ben il faut que la mère chrétienne prie. Il faut qu'elle prie très vite, avec son enfant. Le premier geste qu'elle doit apprendre, c'est le signe de la croix. Et après avoir dit papa et maman, ça doit être je vous salue Marie. Ou réjouis-toi. Selon l'enseignement moderne. Mais c'est la prière qui doit envelopper pour une éducation religieuse et chrétienne qui doit envelopper toute éducation. Et les moments de prière doivent être des moments privilégiés. Point de départ de la journée, terme de la journée. Et puis, avant qu'on se mette à manger ou à boire, très vite, ils doivent rester jusqu'à la fin. On dit que quelqu'un qui est dans le coma, il faut prier tout haut près de lui. Parce qu'on ne sait pas ce qu'il enregistre. Et il en a peut-être besoin. Parce qu'il est très faible. Il ne peut pas avoir l'initiative. Donc il a besoin d'un support. Et si on prie tout à côté de lui, il a un support. Et on ne sait pas du tout ce qui se passe. Et c'est très beau ça. Comme on ne sait pas du tout ce qui se passe avec exactitude chez un enfant. Il y a deux âges où on est en face de quelque chose qui nous échappe. Demandez à un psychanalyste intelligent à quel moment s'éveille l'intelligence. Je l'ai demandé à des psychanalystes qui étaient très bons psychanalystes. Ils n'ont absolument pas su me répondre. Et je leur dis, alors vous voulez éduquer sans savoir quand l'intelligence s'éveille. Alors que moi, la seule chose qui m'intéresse en premier, tu vois, une des choses qui m'intéresse, c'est l'éveil de l'intelligence. C'est la première chose qu'on doit faire. L'éveil de l'affectivité, très bien, mais à l'intérieur. Et la prière, pour un chrétien, implique la foi. Et donc, implique un éveil de l'intelligence. Un chrétien, l'éveil de l'intelligence est plus vite fait que chez un païen. Il faut toujours dire ça. Et c'est pour ça qu'il faut donner le baptême aux enfants. Pour qu'ils ne perdent pas leur temps. On est complice de la perte de temps quand on ne veut pas donner le baptême à un tout petit. Il nous dit, il choisira. Ouais. C'est une erreur de dire ça. Parce que c'est pas... Si on est là auprès, on est comme un aîné qui l'aime. Et donc, il faut essayer. Et ça, ce serait très beau à découvrir. Et ça, je crois qu'on peut le découvrir. Comment la foi permet à l'intelligence humaine de s'éveiller plus vite. Je vous ai déjà dit ça à propos de cette expérience, parce que là, ça a été fait en Israël. On a voulu qu'au point de départ, on écarte l'enfant de sa mère, et donc qu'on l'écarte de la prière. Parce que ce n'est pas les infirmières qui prient. Il y en a, il y a des exceptions. Alors à ce moment-là, elles entrent plus tard dans la communauté Saint-Jean. Mais normalement, les infirmières ne prient pas beaucoup. Elles disent, non, c'est pas ma fonction. C'est pas ma fonction. Voyez, la mère prie avec l'enfant. Et en priant, elle éveille la foi et elle éveille l'intelligence. Parce que pour un chrétien, pour un baptisé, l'éveil de l'intelligence se fait dans les brouillards de la foi, dans les ténèbres de la foi. La foi s'éveille très vite, parce que c'est divin. Elle s'éveille très vite, et à l'intérieur de l'éveil de la foi, il y a un éveil de l'intelligence. C'est pour ça qu'éduquer un enfant chrétiennement, apprendre à prier, c'est lui permettre de ne pas perdre de temps. Cet éveil de l'intelligence, au plan philosophique, au plan chrétien, s'éveille à travers l'affectivité. Une affectivité sensible, une affectivité imaginative. C'est là où il faut faire grande attention. Que l'affectivité imaginative ne soit pas trop forte. Parce que l'affectivité imaginative empêche l'éveil de l'intelligence. Et l'éveil de la foi, ce qui est pire. Dans un monde comme le nôtre, où tout marche du côté imaginatif, et on fait tout pour développer l'imagination. Par le fait même, on ralentit l'éveil de la foi, et on ralentit l'éveil de l'intelligence. Premier réveil de la prière auprès de la mère et du père. La prière en famille sûr que doit être un art chrétien. Parce qu'il y a un art chrétien. Il n'y a pas de science chrétienne. Alors y a-t-il une pédagogie chrétienne? Là aussi, c'est intéressant de se poser la question. Y a-t-il une pédagogie chrétienne? Non. Non. Parce que la prudence est chrétienne, parce qu'il y a une nouvelle finalité. L'éducation est chrétienne parce qu'elle est tout entière tendue vers la finalité. Et la foi apporte une nouvelle finalité. Tandis que la psychologie n'a pas de finalité. Elle regarde le conditionnement. Donc il n'y a pas de pédagogie chrétienne. Alors vous voyez tout de suite le regard différent du philosophe, de l'homme religieux, de l'homme non religieux et de l'homme chrétien. Vous avez donc trois pédagogies différentes. Ça qui est très difficile. Trois pédagogies différentes. D'éveil, puisque si la pédagogie c'est l'éveil, chez le petit, chez l'enfant, l'éveil de son cœur, de son amour, de son affectivité, de son intelligence. Eh bien, cet éveil se fera différemment pour un chrétien. Pour un homme religieux et pour un homme tout court. Alors on dira, la note commune, c'est la pédagogie. J'ai entendu ça. Il y a quelque chose de commun. Au-delà, ils diront au-delà. Il faudrait dire un franc en dessous de la pédagogie humaine. De la pédagogie religieuse, de la pédagogie chrétienne, c'est le point de vue psychologique. C'est vrai que la psychologie est la même pour les trois. Parce qu'elle est abstraite de la finalité. Alors si elle est abstraite de la finalité, elle est la même. Mais elle n'est plus réaliste. Puisque le réalisme de la pédagogie, c'est d'être tendu vers la finalité. On éduque un petit chrétien, une petite chrétienne, pour être un chrétien, une chrétienne, et pour être par là un homme, une femme. Oui, ça c'est pour vous. Vous posez quelques petites questions à l'intérieur de vous. Est-ce que je n'avais pas assez insisté sur ce point de vue-là? Alors, je crois que c'est très très important de le dire. Et c'est plus complexe. Hein. C'est beaucoup plus complexe. Pédagogie chrétienne, une éducation chrétienne. L'éducation chrétienne est plus complexe que l'éducation humaine tout court. Et cette éducation, elle demande tout de suite d'être finalisée. Alors, on avait vu l'éveil de l'intelligence pratique à partir de l'éveil de l'intelligence artistique. D'une certaine manière. Parce que je ne crois pas qu'au point de départ, l'enfant exerce son intelligence prudentielle. Il imite ses parents. Il prie avec ses parents. Il imite. Il est incapable par lui-même de prier seul, sauf des cas très exceptionnels. Quand un enfant a 4 ans, s'écarte pour prier. pas dit. Il a frémi divinement. C'est un son charismatique. Et on ne peut pas compter sur le charisme. Le charisme vient par surcroît. Et donc on ne peut pas, à partir du charisme, donner une éducation chrétienne.
Ce qui est sûr, c'est que c'est très difficile de découvrir à quel moment
L'intelligence cherche la vérité. L'intelligence cherche la contemplation. Voyez, quand l'Église permet à un petit chrétien de faire sa première communion, l'Église pense, et elle a raison, que l'enfant est déjà capable de faire un discernement entre le visible et l'invisible. Alors, est-ce que ce n'est pas le premier moment de la distinction d'une intelligence pratique et d'une intelligence spéculative? On passe du visible à l'invisible. L'invisible, on ne le fait pas. L'invisible, on ne le voit pas. Mais intérieurement, on le porte en nous. C'est l'intériorité. C'est la découverte de l'intériorité. Or, l'intelligence spéculative, l'intelligence contemplative, c'est cette découverte de l'intériorité. C'est cette découverte de la soif de vérité. Ça ne se dit pas encore comme ça, mais c'est ça, à l'état initial. Et avec cet éveil de la recherche de l'invisible, il y a l'éveil d'un appétit, d'une volonté, d'un bien qui dépasse ce qu'on peut voir. Alors, est-ce que c'est simultané? Est-ce que la découverte de l'appétit vers un bien invisible est antérieure à la découverte intellectuelle de l'invisible? Ça aussi, c'est quand même quelque chose de très important à noter. C'est le discernement d'un acte volontaire et de l'appétit spirituel de l'intelligence vers la vérité. C'est l'éveil de la volonté spirituelle. Est-ce que cet éveil de la volonté spirituelle, est-ce qu'il existe dès que le gosse dit non? Premier acte d'indépendance à l'égard de sa mère. Quand de fait, l'enfant dit non, ne veut pas obéir, et qu'il s'en va, qu'il s'écarte, il crée un fossé entre lui et sa mère, et il veut être indépendant. Et ça se traduit par un non, un acte de désobéissance. Alors, est-ce que là, il y a éveil de l'intelligence, éveil de la volonté, plus exactement, et d'une volonté spirituelle? Je ne peux pas dire non sans la volonté spirituelle. Je crois. Elle est peut-être très liée à quelque chose, une connaissance très symbolique, ça, oui. Mais elle est quand même quelque chose qui fait une rupture entre le monde visible et le monde invisible. Vous voyez, il faudrait chercher les deux ruptures du côté de l'intelligence et du côté de la volonté entre le monde visible et l'invisible. Et il y a deux ruptures qui ne se coïncident pas, qui sont différentes. Mais ces deux ruptures me permettraient de voir le premier moment où l'appétit spirituel, la volonté, commence à se séparer. Quand dire non, ça c'est l'éveil de l'intelligence. C'est l'intelligence qui dit non. C'est l'intelligence qui, pour s'affirmer davantage, dit non. Et c'est la première affirmation de son autonomie. Quand on dit non. C'est pour ça que je crois que dès qu'il y a une négation, il y a un certain éveil du monde invisible, du côté affectif comme du côté intellectuel. Et ça, ce serait à étudier au plan philosophique. Parce que la négation est sûrement quelque chose qui est très très grand, qui est peut-être terrible, puisque c'est des ruptures. Mais songez à la première rupture que vous avez faite avec votre mère, si vous vous rappelez encore. Première rupture. Vous avez tapé du pied. Comme un gosse quand il dit non. Tape du pied. Et c'est très significatif. Il faut que ça passe à travers son corps. Il se dit. Ses petits poings ne sont pas encore assez forts. Alors il a le pied. Et il tape du pied. Il dit non. Il tourne le dos. C'est curieux. C'est comme spectacle, c'est très beau. Ça peut être terrible, mais c'est très beau. Il y a quelque chose de grand. C'est l'intelligence qui s'affirme. Parce qu'au point de départ, l'intelligence, vous voyez, l'intelligence est liée à l'imaginaire, liée à l'affectivité, est une intelligence qui adhère. C'est le cocos qui s'accroche. Et sa petite main accroche. Avant d'être une main qui offre, hein, elle accroche. Tandis que quand vous dites non, c'est une main qui se sépare et qui rejette. Et si elle a quelque chose à la main, si l'enfant a quelque chose à la main, il le lâche. Ça tombe. Parce qu'il ne tient plus, il se sépare. Et en tapant du pied, c'est pour affirmer davantage. Parce que dans la négation, il y a affirmation. C'est sûr. Il y a séparation. Alors, c'est là où je me pose la question. Avec vous. Est-ce que le premier moment d'une intelligence spéculative, qui, je crois, arrive très vite, de la négation. Avant de rompre, on nie. L'affectivité rompt. Je ne sais pas. De ce qui pourrait être pour nous un soutien. On ne veut plus de soutien. On veut être soi. Puisque si on est, si on